Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la biodiversité et plus précisément de l'impact de l'homme sur celle-ci. Pour en débattre, nous accueillons les spécialistes Dorian, Hugo et Pablo qui, vous le constaterez, ne sont pas toujours d'accord. Mais avant de commencer, il est important de bien définir cette notion qui, si elle est souvent employée, n'est pas toujours bien comprise. L'un d'entre vous peut-il éclairer nos auditeurs ?
Alors pour faire simple, je dirais que la biodiversité correspond à la diversité des espèces vivantes et de leur caractère génétique. Elle se décline en plusieurs niveaux, à savoir la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes. Le terme a été employé pour la première fois par le scientifique Edward Wilson en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Mais ce terme est trop large pour avoir une véritable connotation scientifique et commence progressivement à disparaître du langage des sciences du vivant.
Merci pour cette précision. Nous pouvons donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Quelles responsabilités sont imputables à l'homme en termes de menaces sur la diversité présente dans la nature ? Un sujet très polémique pour débuter, la chasse. Pablo, vous souhaitez prendre la parole ?
Oui. D'abord, on entend souvent que la chasse n'a que des effets néfastes sur l'environnement. Mais une récente étude menée en Angleterre montre que les terres où est pratiquée la chasse sont généralement gérées d'une façon favorable à la biodiversité, et qu'il existerait donc une relation positive entre chasse et conservation. Selon cette étude, les propriétaires de terres où sont pratiquées des chasses, telles que la chasse à coureur renard ou la chasse à tir, hébergent une faune plus diverse que celle où n'est pas pratiquée la chasse.
Certes, mais plusieurs chiffres nous montrent que la situation est alarmante. Qu'en dites-vous ?
Je pense que la chasse, lorsqu'elle est réglementée, peut effectivement avoir un impact positif. Par contre, de nouvelles modes émergent dans la société, comme cette tendance à s'acheter des animaux originaux, en plus des chiens, des chats ou autres animaux de compagnie. Les gens veulent maintenant un singe, un oiseau exotique, des reptiles ou des tortues. Et pour satisfaire ce marché, un trafic d'animaux se développe. Ainsi, on introduit dans des pays des espèces qui sont originaires d'ailleurs, créant un déséquilibre et on tue des animaux qui vont peu à peu disparaître si rien n'est fait.
Pour cette raison, les espèces menacées voient chuter leur population de 50% ou plus. Les espèces vulnérables ont accusé une perte de 20 à 50% de leur effectif. Les espèces rares, en nombre relativement réduit sur leurs aires de répartition, ne sont pas en danger immédiat d'extinction, mais leurs résultats sont inquiétants. Un quart des 4600 espèces de mammifères connues sont en danger. 24 de leurs 26 ordres comprenant des espèces en voie d'extinction.
Il est vrai que ces chiffres sont préoccupants, mais est-ce qu'ils touchent tous les autres domaines ?
Bien sûr, la pêche est aussi concernée. 80% des zones de poissons sont surexploitées. C'est une honte !
En effet, pour vous donner un chiffre frappant, entre 1950 et 2000, la pêche a été multipliée par 5, de 20 millions par an à 100 millions, alors que dans un même temps, la population mondiale a été multipliée par 2,5.
Oui, mais la pêche permet de nourrir le monde. De plus, cela permet de réguler l'équilibre des espèces. Par ailleurs, il faut savoir que dans le monde, beaucoup de personnes vivent de la pêche. C'est donc une industrie fondamentale.
Arrêtez, vous parlez de l'industrie, mais vous savez bien que cela pollue énormément et que cela gangrène l'environnement qui se détériore chaque jour un peu plus.
Je vous ferai remarquer que sans ces fameuses industries, vous n'auriez pas de travail aujourd'hui.
Mais il n'y a pas que les industries qui offrent des emplois de nos jours.
Mais essayez tout de même d'imaginer un monde sans industrie. C'est impensable, ce serait l'apocalypse, faut en prendre conscience.
Cessons de nous éparpiller, il faudrait revenir au sujet. Après la chasse et la pêche, pouvons-nous aborder le sujet de la déforestation ? À l'heure actuelle, est-ce un sujet grave ?
Eh bien, puisqu'il vous est étonné, parlons-en. Il faut rappeler que le bois est fondamental pour la construction de nombreux matériaux, comme les feuilles, les cahiers, les planches, les meubles, les tables. Nous sommes 7 milliards d'hommes dans le monde, et bientôt 9. Comment croyez-vous que nous allons tous tenir sans remplacer la forêt par des habitations ?
Vous semblez oublier que les forêts sont les poumons de la Terre. 6,4 millions d'hectares, c'est la superficie de forêt qui disparaît chaque année. 6 tonnes, c'est la quantité de CO2 que peut absorber un hectare d'arbre par an. C'est pourquoi la déforestation est un important facteur du réchauffement climatique. Mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle menace la survie de certaines espèces, réduit la fréquence des précipitations et dégrade la qualité des sols forestiers qui filtrent l'eau, la pollution et régulent les rivières. 17%, c'est la proportion des émissions de gaz à effet de serre générées par la déforestation. En clair, la destruction des forêts génère plus de CO2 que l'intégralité des transports dans le monde. De plus, il y a autant de forêts en cours de destruction que de forêts actuelles.
Destruction de l'habitat, des animaux, réchauffement climatique, catastrophes naturelles plus fréquentes. La déforestation semble bien être la source. Que dire aussi de l'agriculture ?
La pratique houleuse des OGM met en danger la population elle-même.
Pourtant, cela permet de subvenir aux besoins de la population.
En l'empoisonnant !
Dans ce cas, il faut privilégier l'agriculture durable, qui alliera qualité et quantité. Sachez également que l'homme se rend compte de son impact et qu'il prend progressivement des mesures qui visent à le limiter. Par exemple, l'économie circulaire se met en place. Cela consiste à produire des biens et des ressources en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières et des ressources d'énergie non renouvelables, et en transformant les déchets en matières premières secondaires.
Tiens, puisque vous parlez d'économie, pouvez-vous nous en parler ? Il faut rappeler qu'en ce moment, nous, les pays développés, reprochons en permanence aux pays émergents de beaucoup trop polluer. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Je vous ferai remarquer que ce que font les pays émergents aujourd'hui, c'est que nous avons fait pendant 150 ans, depuis la révolution industrielle. Aujourd'hui, nous nous sommes développés, et c'est pour cette raison que nous pouvons orienter vers des sources d'énergie plus renouvelables. Il serait complètement injuste de leur demander de réaliser en si peu de temps ce que nous avons mis plus de 2 décennies à mettre en place.
Et de plus, savez-vous combien coûte une éolienne ? 500 000 euros, ce n'est pas donné. Vous comprenez maintenant pourquoi ce n'est pas si facile de s'orienter vers des énergies renouvelables. La protection de la biodiversité a un coût que tous ne sont pas prêts à supporter.
Les énergies fossiles représentent 80% de l'utilisation totale de l'énergie. Il faut réussir à changer nos habitudes, trier nos déchets, prendre les transports en commun et recycler. En bref, si chacun s'y met, nous pourrons tous nous passer d'énergie fossile.
Mais c'est utopique de vivre sans énergie fossile.
Eh bien, figurez-vous que pendant 75 jours, la totalité des volumes d'électricité du Costa Rica a été produite uniquement grâce à des ressources renouvelables. Il vient à ce titre d'établir un record historique en revenant le premier pays à se passer si longtemps de combustibles fossiles pour répondre à ses besoins énergétiques.
Atteindre ces objectifs est difficile en soi, mais il faut persévérer. La bataille n'est pas perdue. Connaissez-vous par exemple les accords de Cancun et de Nagoya ? Le premier tente de limiter le réchauffement climatique terrestre, tandis que le deuxième tente de diviser par 2 la destruction des habitats naturels d'ici 2020, en créant des zones protégées pour pouvoir les restaurer. Il reste de l'espoir.
Voilà qui est encourageant. L'ensemble des pays devraient suivre cet exemple. L'émission touche à sa fin et il est évident que les arguments développés par les uns et les autres sont tous fondés. On peut conclure en affirmant que si l'homme a une responsabilité importante dans la perte de la biodiversité, il n'en reste pas moins qu'il tente d'enrayer cette évolution. La prise de conscience de notre rôle à tous, acteurs politiques, économiques ou simples citoyens, est là. L'avenir de notre planète est entre nos mains. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Pour les auditeurs qui voudraient la réécouter, je vous rappelle que vous pouvez la podcaster sur notre site Radio Verte.